Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, c'est un des projets emblématiques de l'Europe pour les années qui viennent. Interdire la vente de produits issus du travail forcé, avec dans le viseur le travail de la population ouïghour, une minorité musulmane réprimée dans la province chinoise du Xinjiang. Une région qui produit 20% du coton mondial. En Allemagne, on a pris les devants puisqu'une plainte a été déposée contre plusieurs grandes entreprises accusées de profiter du travail forcé des Ouïghours. C'est le reportage à Berlin de Julien Michaussi.
Cela va absolument dans le bon sens. Car quand je m'achète un t-shirt, je veux savoir si des personnes ont été forcées à le produire, si elles ont été torturées, emprisonnées. Et si c'est le cas, je ne veux pas d'un tel t-shirt produit pour des entreprises allemandes.
Hugo Boss, CEA Lidl, Aldi, autant d'entreprises allemandes visées par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité dans la région du Xinjiang. Activiste des droits de l'homme, David Missal salue l'initiative du ECCHR, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains, basés à Berlin. Depuis le procès de Nuremberg contre les principaux responsables nazis, le travail forcé est reconnu comme crime contre l'humanité. Directrice juridique du ECCHR, Myriam Zagemas, est à l'origine de la plainte.
À partir du moment où vous passez une commande de produits dans cette région, vous portez une responsabilité. Et c'est comme ça que fonctionne cette industrie. Lorsqu'une entreprise signe un contrat avec un sous-traitant au Xinjiang, par exemple produire des chemises, elle rend ce modèle de travail forcé viable sur le plan économique. Et c'est là où nous disons que cette entreprise apporte sa contribution directe au travail forcé.
Malgré les dénégations du régime chinois, le recours au travail forcé des Ouïghours a été démontré à maintes reprises à travers des enquêtes journalistiques, rapports d'experts et témoignages de survivants. Zumretai Arkin, avocate originaire du Xinjiang et engagée au sein du Congrès mondial des Ouïghours basé à Munich.
Vous avez des programmes où le gouvernement transfère des groupes d'Ouïghours, que ce soit des milliers d'Ouïghours qui sont transférés dans d'autres régions en Chine pour justement travailler dans des usines qui sous-traitent ou qui manufacturent ces produits pour des marques étrangères. Donc que ce soit Hugo Boss ou d'autres marques.
David Missal parle même d'un marchandage entre entreprises étrangères et régime chinois au détriment des Ouïghours.
Le constructeur automobile Volkswagen exploite également une usine au Xinjiang, une implantation qui était la condition imposée par le pouvoir chinois pour que le groupe puisse ouvrir des usines dans d'autres régions. C'est un secret de polichinelle. C'est le même principe pour les géants du textile. Si ces entreprises disent « nous ne voulons plus de coton du Xinjiang », elles s'exposent à des sanctions dramatiques pour leurs affaires en Chine, comme par exemple des appels au boycott encouragés par le pouvoir central.
Les entreprises incriminées répondent par la présentation d'audit réalisé sur place qui ne constate aucun travail forcé. Un mensonge organisé d'après Zumretai Arkin.
Dans un contexte où c'est un environnement ultra répressif, ultra contrôlé, les travailleurs, surtout les Ouïghours, n'ont pas la liberté de s'exprimer comme ils veulent. Ces compagnies ne peuvent pas se cacher derrière l'excuse ou l'argument qu'ils engagent des firmes indépendantes pour vérifier la situation de ces travailleurs. Ce n'est pas crédible.
Et la plainte déposée par Myriam Zagemas et le ECCHR vise également le gouvernement allemand.
Avec cette plainte et le choix de la voie judiciaire, nous espérons mettre aussi la pression sur les décideurs politiques. Avec cette procédure, nous mettons sur la table la question des droits de l'homme dans l'ouest de la Chine et le fait que l'action du gouvernement allemand est bien trop discrète. Nous le faisons par un moyen détourné, en mettant la pression sur les acteurs économiques. Nous disons donc clairement que le gouvernement ne peut pas laisser des entreprises allemandes faire ce qu'elles veulent au Xinjiang.
Cette procédure fait suite à une autre action en justice similaire, cette fois en France, une plainte qui émane de l'association Sherpa contre des multinationales de l'habillement. Une action coordonnée entre les deux pays à quelques mois des Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront à Pékin.
Tous tous les pays du continent ne sont pas égaux devant le tabac. Si les pays scandinaves sont les plus vertueux, on compte en France 36% de fumeurs chez les jeunes, le pire chiffre derrière la Bulgarie. En Suisse, un pays très en retard dans la lutte contre le tabagisme, une loi vient d'être adoptée qui interdit la vente de cigarettes aux mineurs, mais une interdiction en trompe-l'œil pour les associations. La loi fait encore la part trop belle à l'industrie et ne permet même pas de ratifier la Convention sur la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé, dont le siège est à Genève. Les explications de Jérémy Lanche.
Sur les 26 cantons suisses, 11 seulement interdisent la vente de tabac aux mineurs. Dans 3 cantons, dont Genève, il n'y a aujourd'hui aucun âge limite. La nouvelle loi devrait mettre fin à ces différences en interdisant la vente aux moins de 18 ans sur tout le territoire. Le paradoxe, c'est que ce serrage de vis ne suffira pas à la Suisse pour ratifier la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, adoptée par quasiment tous les pays, même la Corée du Nord. En cause, la vision très libérale de la Suisse, notamment en ce qui concerne la publicité, comme l'explique Pascal Dietelm, ancien collaborateur de l'OMS et militant de la lutte anti-tabac.
La convention cadre de l'OMS dit simplement qu'il faut interdire toute forme de publicité pour le tabac. La loi qui vient d'être votée n'interdit que des formes de publicité obsolètes, c'est-à-dire l'affichage. Mais toutes les formes modernes de publicité, la publicité par les réseaux sociaux, sont complètement autorisées.
L'influence des groupes cigarettiers se fait sentir jusqu'au Parlement suisse, où la grande majorité des élus exercent un métier en plus de leur mandat, quitte parfois à être employés par les industriels.
L'industrie n'a pas besoin de lobbyistes, puisque les lobbyistes sont les parlementaires eux-mêmes. On a des représentants des intérêts du tabac clairement déclarés. D'ailleurs, on a même des textes qui sont rédigés par les industriels, qui sont repris mot pour mot.
Et c'est peut-être le revers de la médaille du système politique suisse. Loué partout pour la vigueur de sa démocratie directe, la Suisse offre également un terrain favorable aux intérêts des grands groupes cigarettiers. 3 des plus grandes compagnies mondiales ont d'ailleurs leur siège en Suisse.
Quand vous avez un géant comme Philip Morris qui est installé dans un canton où le chiffre d'affaires de ce géant dépasse très largement le budget du canton, c'est clair que les autorités cantonales ne peuvent être que impressionnées et finalement deviennent des émissaires de l'industrie au niveau fédéral.
La nouvelle loi doit rentrer en vigueur en 2023, mais comme souvent en Suisse, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Les Suisses doivent voter en février prochain pour dire s'ils acceptent d'aller plus loin encore et de bannir toute forme de publicité pour le tabac, y compris sur les réseaux sociaux.
Et en Europe, l'Espagne est un des derniers pays où l'on produit encore du tabac blond essentiellement, cultivé sur 8000 hectares dans le nord de l'Extrémadure, dans la région de la Vera. C'est aussi là que les feuilles sont séchées puis transformées. Une activité agricole qui survit grâce aux subventions de la politique agricole commune. Reportage en Espagne signé Diane Cambon.
La récolte du tabac bat son plein dans la Vera. Au pied de la chaîne des montagnes de Gredos, les agriculteurs s'activent dans les champs, ramassant avec la moissonneuse les larges feuilles qui seront transformées en cigarettes. Assis sur son tracteur, Agustin donne un coup de main à son fils Sergio, qui a repris l'exploitation familiale il y a 3 ans.
Depuis que je suis né, je suis dans le tabac, mais cela a beaucoup évolué. Maintenant, on produit plus, mais on gagne moins, car il y a beaucoup plus de frais avec toutes les machines et les engrais. Avant, on dépensait pour acheter le grain pour l'animal, et lui, il nous fournissait le fumier pour alimenter les plantes. Non, franchement, je ne voulais pas que mon fils se mette dedans. C'est trop dur, ce travail.
Mais Sergio travaillait dans la construction, un secteur en perte de vitesse. Alors, lorsque son père décide de partir à la retraite, il n'hésite pas à reprendre les 6 hectares de champs de tabac.
La région aide les jeunes qui se lancent et ensuite, il y a des aides pour moderniser ton matériel avec les nouvelles technologies. Il a fallu que j'investisse dans un tracteur plus grand, une moissonneuse, moderniser l'arrosage automatique. Si je n'avais pas eu l'exploitation de mon père, je n'aurais pas pu me lancer. On est obligé d'investir pour produire plus, car le prix du tabac ne monte plus.
Le prix du tabac, qui est fixé par les manufactures du tabac, n'a pas évolué depuis des années. Chaque tabaculteur dispose par contrat d'un quota fixe d'hectares cultivés. Or, depuis 10 ans, la production est à la baisse, comme l'explique Ricardo Miranda, à la tête de l'organisation interprofessionnelle du tabac, à quelques kilomètres des champs.
Actuellement, l'industrie de transformation ne réclame pas davantage des producteurs de tabac, car la demande est stable, voire inférieure ces dernières années. C'est pour cela qu'il est très difficile que des jeunes s'engagent dans le secteur agricole.
Jeunes et moins jeunes ne pourraient continuer à planter du tabac sans les précieuses aides de la politique agricole commune. La culture d'un hectare de tabac rapporte 4000 euros, 1500 euros de la vente, le reste, plus de la moitié, en subventions.
Les subventions de la PAC sont très importantes pour cette région. Pour chaque hectare de tabac, on touche 2500 euros de l'Union européenne. Sans cette aide, on ne peut pas investir. Et si on cesse de les toucher, c'est tout le tabac qui disparaît de la région. Or, ici, tout le monde dépend de cette culture.
D'après Ricardo Miranda, cette aide se justifie car la production de tabac permet de créer de nombreux postes de travail, pas moins de 3000 dans la région.
C'est la star des cultures, car pour cultiver des hectares de tabac, il faut 10 fois plus de main-d'œuvre qu'une culture de maïs ou de céréales. Il faut des travailleurs pour la récolte, dans les champs, puis à la manufacture. Ici, dans les entreprises de transformation, la moitié des employés sont des femmes. C'est très important pour l'économie locale.
Direction le séchoir. Un immense bâtiment abrite une centaine de fours où sont séchées les feuilles encore vertes. L'air est chargé de nicotine qui pique les yeux. C'est ici que Sergio apporte ses 27 000 kilos de tabac annuel, lesquels sont répertoriés et suivent un processus de contrôle très strict.
Tous les kilos de tabac qui entrent et sortent du séchoir sont comptabilisés. Il y a beaucoup de contrôles car il existe un fort marché de la contrebande parce que les prix sont tellement bas que certains préfèrent vendre à des spécialistes de la contrebande qui se chargent de tout le processus de transformation. Avec une caisse de 100 kilos de tabac, tu peux faire entre 3000 et 5000 paquets de cigarettes.
Un marché de la contrefaçon qui explose en Europe et dont une grande partie du tabac est cultivée dans les champs espagnols. Ici, en Espagne, 10% des cigarettes fumées proviennent de la contrebande, selon les autorités locales.
Et dans les Balkans, la lutte contre le tabagisme va de pair avec la lutte contre le trafic de cigarettes. Dans les pays de l'ex-Yougoslavie, on estime que 7,5 milliards d'euros de recettes fiscales s'évaporent chaque année, soit 4,5% du PIB, principalement en raison du trafic de cigarettes. Guère étonnant quand on sait que les taxes représentent 85% du prix du paquet et qu'un adulte sur trois est fumeur. Simon Rico.
Pour les contrebandiers balkaniques, les cigarettes de contrefaçon constituent toujours un juteux marché. Selon une étude publiée en 2019 par l'Institut d'économie de Zagreb, les bénéfices tirés du trafic de cigarettes dépasseraient les 200 millions d'euros, soit un peu plus de 0,2% du PIB régional. En Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, les profits représenteraient même 0,5% de la richesse nationale produite. L'équation est assez simple à comprendre. Quand un paquet est vendu légalement au détail dans les Balkans, les taxes représentent en moyenne 85% de son prix, alors que sur le marché noir, les trafiquants le font payer à la moitié de son prix légal, ce qui leur laisse une très confortable marge. Au Monténégro, le paquet le moins cher coûte environ 2,20 euros dans le commerce, mais on peut facilement le trouver pour 80 centimes au marché noir. Pour un fumeur consommant un paquet par jour, cela représente donc une économie de 40 euros par mois, soit près de 10% du salaire moyen. Ces dernières années, la hausse des taxes imposées par les autorités monténégrines sur le tabac aurait même fait baisser de moitié les ventes légales de cigarettes. Beaucoup des fumeurs interrogés expliquent en effet qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des cigarettes dans le commerce, une réalité guère étonnante alors que les salaires plafonnent sous les 300 euros par mois dans la plupart des campagnes des Balkans. Pour endiguer les trafics, l'étude de l'Institut d'économie de Zagreb recommande une meilleure coopération entre les polices de la région, des peines plus lourdes contre les trafiquants, mais aussi des programmes de prévention pour sensibiliser les usagers sur les risques du tabac. Aujourd'hui, seuls le Monténégro, la Croatie et la Macédoine du Nord interdisent par exemple de fumer dans les lieux publics.
Diddles every day, every night. You know the vibe.
mayo on the floor, crumbs on the mattress. All I want for breakfast is a tato sandwich.
Et pour notre chronique en un mot, on revient sur la potato, la patate ou la tato, comme disent les Irlandais. Un mot qui est devenu une marque et qui est avant tout un symbole culinaire et un symbole tout court de l'identité irlandaise, Emeline Vin.
Les dîners de Rebecca ont souvent un point commun, la pomme de terre, qu'on appelle ici la tato.
I do eat potatoes every day.
Je mange des taïtos tous les jours. Pour dîner, beaucoup d'Irlandais font ça. Un légume, une viande et des taïtos. Mes préférés, rôtis ou à la vapeur, et en purée en troisième position. Il y a tellement de manières de les cuisiner.
Quelle que soit la forme, le nom reste le même. Taito, voire taïo, selon votre accent. Mais attention, pour atteindre le titre de taïto, la patate doit être irlandaise.
Il n'y a de taïto qu'en Irlande. C'est comme la Guinness. Vous pouvez en trouver partout, mais ailleurs, ce n'est pas si bon. Ne le dites pas à ma famille, mais certains jours, les patates me manquaient plus que...
Cet amour de la taïto a même donné une mascotte nationale, Monsieur Taïto. Un petit bonhomme en forme de patate, costume rouge, haute forme noire et sourire amène, l'ambassadeur de la principale marque de chips du pays. Taïto, évidemment. Sur les paquets et les réseaux sociaux, Monsieur Taito se déguise à Halloween, arbore un drapeau arc-en-ciel à la Gay Pride. Le Taito Park est même le plus grand parc d'attractions du pays. Onya Maguire, une historienne culinaire, explique le symbole des chips Taito.
Je ne connais pas un Irlandais qui n'aime pas les Taitos. Ce sont des chips qui sont soit saveur cheddar et oignon, soit sel et vinaigre. Nous n'avons pas de chips à la fleur de sel comme vous en France qui sont bien plus subtils. Les chips cheddar et oignon vous prennent la bouche et les sel et vinaigre peuvent vous faire pleurer.
Fondée dans les années 50, la marque et le nom s'est imposé au fil des années. Tous les Irlandais ont un souvenir avec les chips Taito.
Quand j'étais petite, quand les parents allaient boire un coup au pub, on allait avec eux. On nous mettait sur un tabouret ou sur les marches devant et on nous donnait un paquet de Taito. C'était vraiment un régal.
Égare à celui qui piocherait ses chips une à une dans leur paquet, les Taito se dégustent d'une manière tout à fait traditionnelle.
Vous prenez du pain de forme rectangulaire, vous tartinez une tranche avec beaucoup de beurre salé, beaucoup. Ensuite, vous mettez autant de chips que vous pouvez dessus, puis vous refaites une tartine de beurre, vous mettez ça par-dessus et vous coupez en deux. Voilà votre déjeuner à déguster avec une tasse de thé.
Et comme tout symbole irlandais qui se respecte, Monsieur Taito n'a pas tout à fait la même tête des deux côtés de la frontière irlandaise. Ce sont d'ailleurs deux entreprises distinctes. Mais de part et d'autre, les supermarchés sont tous dotés d'un immense rayon dédié aux chips Taito et à leurs dizaines de saveurs différentes. La relation patato-centrée des Irlandais à leur cuisine tient ses origines dans l'histoire du pays. Mais l'histoire récente, explique Porrick O'Gallagher, restaurateur, auteur de plusieurs articles professionnels sur la pomme de terre.
C'est un aliment très récent, ça ne fait que 400 ans qu'on cultive la pomme de terre. Elle a un excellent rendement. Les plus pauvres n'avaient qu'un hectare pour faire pousser leur nourriture. Et s'ils avaient une famille de 6 mouches à nourrir, alors il fallait les nourrir grâce à ce terrain. C'est le seul légume qu'ils pouvaient se permettre.
Onya Maguire a tout de même une inquiétude que la taito, qu'elle soit chips, frites ou purée, perde son statut de star des cuisines irlandaises avec la mondialisation des gastronomies.
La pomme de terre n'est plus l'ingrédient principal du foyer moderne. En particulier pour la nouvelle génération, les jeunes qui vont à la fac, par exemple, sont plus susceptibles de se faire un plat de pâtes plutôt que de bouillir une patate. La pomme de terre n'est plus aussi enracinée dans cette génération qui voyage beaucoup.
Une prévision que ne partage pas la jeune Rebecca. Au menu de son dîner, des taito en cube rôti au four.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Victor Houle. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et abonnez-vous à Accent d'Europe sur vos plateformes d'écoute de podcasts préférées. À demain.